Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr et je suis avec Thomas Vericel. Bonjour.
Bonjour, bonjour Mathis, bonjour à tous.
On va parler de plusieurs choses aujourd'hui et tout d'abord un livre, le petit recueil du trailer, un livre que tu as édité il n'y a pas si longtemps.
Ouais, exactement. Donc ce livre est paru au mois de juillet dernier. C'est l'accouchement d'une passion tout d'abord, parce qu'il parle du trail. Donc c'est le fruit des années de pratique à assez haut niveau, puisque j'ai évolué pour Salomon en team nationale, en team France. Et puis de tous les jours aussi, parce que amoureux de la nature, voilà, je passe une bonne partie de mon temps à gambader sur nos belles montagnes.
C'est quoi le trail ?
Alors le trail, voilà, c'est une discipline qui est assez jeune pour finir. En fait, elle a toujours existé parce que elle part de la randonnée. En fait, c'est une discipline qui se pratique essentiellement à la base dans la nature. En fait, on sort un petit peu des pistes d'athlétisme, on sort du bitume et on s'aventure sur les chemins de randonnée, sur les pistes forestières. Ou bien même dans les alpages. C'est une discipline qui est basée sur, je dirais, la gestion en fait, de l'effort, c'est-à-dire qu'on part avec un petit sac à dos et on doit s'autosuffire en termes de nourriture et d'eau. On part pour des distances qui peuvent être relativement longues. Donc au tout départ, c'était sur des distances de 20, 30, 40, 50 kilomètres. Aujourd'hui, on a des courses qui vont bien au-delà, puisque je dirais que celle qui détient un peu la palme, c'est le Tour des Géants, donc qui a lieu en Italie et qui fait 325 kilomètres. Donc je dis bien en non-stop, hein, c'est-à-dire qu'on part et on fait les 325 kilomètres d'une seule traite avec, il faut le rappeler, et c'est pas négligeable, 25 000 mètres de dénivelé voilà, positif et négatif. Donc ça rajoute un petit peu de piquant. Et bien entendu, tous les aléas climatiques qui peuvent aller avec, sans compter ceux liés à la gestion de sa course, c'est-à-dire des gros coups de barre, des gros coups de mou, la gestion du sommeil, comme on peut l'avoir chez les navigateurs. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup de choses. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui...
Et en plus,
on court. Le but du jeu, c'est de courir. Sur des distances comme ça, il faut quand même l'avouer, dans les ascensions, toutes les ascensions, c'est du marché rapide. On a droit à des bâtons. Donc, dès qu'on est sur des formats très longs, on se rapproche quand même un petit peu de la rando-course, puisque les moyennes horaires sont de 7-8 km/h. Enfin, tenir 8 km/h sur des distances comme ça, avec le dénivelé qu'il y a, c'est déjà assez compliqué.
Et il n'y a pas de ravitaillement ?
Alors si, il y a des ravitaillements, comme ça c'est quand même énormément développé. Il y a énormément de monde qui aujourd'hui pratique cette discipline. Ça s'est un petit peu formaté, formalisé. La Fédération française d'athlétisme a son circuit aujourd'hui de trail avec ses champions de France. Mais comme ça reste très très vaste dans la définition, il y a des trails qu'on peut dire courts, qui sont sur des formats de 15 km, des trails moyens sur des formats de 25 km, d'autres plus longs. Et puis après, on va jusqu'à l'ultra trail dont je vous parlais tout à l'heure, avec des formats assez délirants en termes de kilométrage et de dénivelé. Voilà.
Et puis voilà, il y a plusieurs types de trails aussi. Il y en a qui sont vraiment portés sur la verticalité, donc on va monter très fort, un très gros dénivelé, et d'autres plutôt sur de l'endurance.
Là, on parle de kilomètres verticales. Voilà. Effectivement, en fait, il y a autant de matières de trail que de profils qu'on peut trouver en France. C'est-à-dire qu'il y a la plaine, il y a sur les bords de mer, il y a voilà. Donc dans la définition, ça reste quand même assez large. Voilà.
Ce qui en fait du coup une discipline assez dure à qualifier, calibrer.
Ouais, c'est pas évident. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais, la Fédération française d'athlétisme a essayé de donner un cadre bien particulier, mais à la base quand même, c'est une manière de se déplacer librement sur le territoire, et c'est ça qui en fait le charme aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, enfin quand on va s'entraîner, on n'a pas un parcours qui est vraiment dessiné au préalable. On va où on veut, si on a envie de couper dans un bois, on le fait. Voilà, on a quand même cette liberté qui est quand même assez sublime, cette proximité avec la nature, et les espaces de liberté aujourd'hui, ils se font rares au final. Donc c'est pour ça que je pense aussi que le trail connais ce succès.
Je me suis toujours posé la question de comment faisaient les gens qui couraient sur le bord de la route et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas courir dans les sentiers. Est-ce que tu as une réponse?
Baptiste, je ne sais pas. Je me la pose aussi quand ils se font raser par les voitures. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Après, il faut essayer de comprendre aussi cette passion. Il y a des gens qui sont effectivement... Des adeptes et des addicts du bitume. Il y a des courses sur route qui sont assez dingues aussi sur les distances. Des 24 heures, c'est-à-dire que les gens tournent même 24 heures sur un petit anneau qui fait 2 km. C'est une passion comme une autre. Hein. Il faut vraiment rentrer dans une gestion d'effort. Voilà. Après, personnellement, mais je préfère me balader en pleine nature que sur le bord d'une nationale. Mais bon, ça, c'est... voilà,
c'est plus risqué. Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, des chaussures spéciales? Est-ce qu'on se fait plus facilement mal?
En fait, il existe différents modèles pour différentes pratiques. Ouais. C'est bien d'avoir des chaussures qui sont adaptées quand on court sur la route. Ce ne sera pas les mêmes que celles qu'on utilisera pour aller sur un trail en région montagneuse ou même dans une région où le sol est souple. Voilà, il existe vraiment toute une panelle de chaussures et c'est bien de justement faire appel à un connaisseur, mais on y reviendra plus tard.
On y reviendra.
Voilà, pour avoir des chaussures adéquates.
Tu nous as parlé de la Team Salomon. Qu'est-ce que ça fait d'être chez un gros équipementier comme ça? Quel était ce travail?
Eh ben c'est une consécration quelque part. C'est vrai que pour ma part, ça a été une très belle aventure. Hein. C'est le fruit d'un entraînement à la base parce qu'on n'atterrit pas là pour rien non plus. Après, là, moi, j'ai eu une opportunité. C'était un petit peu le début du trail dans les années fin 90, début 2000, où il n'y avait pas non plus une densité énorme sur la discipline. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Ça s'est professionnalisé. Clairement, aujourd'hui, je n'aurais pas pu intégrer le team comme je l'ai fait à l'époque. Par contre, j'ai eu cette chance-là. On était 5. J'ai évolué pendant 5 ans dans le team. Ça m'a permis d'aller courir dans le désert au Maroc, dans le désert en Libye. Ça m'a permis d'aller en Chine et puis de pratiquer ma passion sans que ça me coûte un centime, quoi, parce que forcément, derrière, j'avais le matériel qui allait bien avec. Quoi.
Les préparateurs, les médecins, tout?
Ouais, pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que... ils sont présents. Là, c'était une petite cuisine personnelle, mais derrière, on avait quand même on avait des gens qui nous suivaient sur notre saison. Et puis, médiatiquement, c'était aussi la mise en avant des athlètes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une expérience très, très intéressante.
Et c'était déjà de la compétition ?
Oui, c'était déjà de la compétition. Après, c'est vrai que dès lors qu'on met un dossard, tout le monde n'est pas compétiteur, mais personnellement, je le suis. Donc, c'est la compétition. Ouais.
Et t'as gagné ?
Oui, j'ai gagné des courses. J'ai gagné quelques courses au niveau national. Voilà. Oui, j'ai gagné des courses. J'ai gagné des courses.
On revient sur ce livre. Alors, le petit recueil du trailer, qu'est-ce que t'as voulu faire ? C'est quoi ? C'est un topo guide ? C'est un retour d'expérience ?
C'est un retour d'expérience. En fait, ce que je voulais, c'était... On vit plein de petites anecdotes sur la pratique, que ce soit l'entraînement, en compétition, des petits moments qui font sourire en fait quand on y repense. Et on est un petit peu tous dans ce cas-là. Donc l'idée, c'était de mettre ça sur papier. J'avais plein de petites anecdotes. Donc au fil des années, j'avais gribouillé un petit peu sur des feuilles. Par exemple, il y en a plein. Hein, je prends le livre, je l'ai dans les mains. C'est vrai que c'est pas très
radiophonique.
Radiophonique,
c'est pas grave.
Mais
si,
bon.
Au contraire.
Par exemple, quand on court, on se mouche d'une manière assez bizarre parce qu'on s'embarrasse pas d'un papier ou quoi que ce soit. Donc on se bouche une narine, on souffle très fort et ça c'est quelque chose qu'on fait en courant. Et du coup, d'une manière anecdotique, j'ai voulu parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas
on
moi qui ai décidé. On en reparlera tout à l'heure. Effectivement, donc c'est quelqu'un qui est en costard et qui est dans la rue en train de marcher avec son attaché caisse et qui fait ce geste pas très c'est pas très beau, il faut le dire. Et puis à côté, il y a un enfant avec sa maman qui dit mais il est dégueulasse ce monsieur, voilà. Donc c'est le syndrome du mouchage du trailer. En fait. Voilà. Donc c'est un tas de petites anecdotes comme ça qui ont été Ça, plus quelques textes aussi, sur des moments un petit peu magiques que j'ai pu vivre lors d'entraînements de course.
Quelques belles photos également.
Oui, alors il y a beaucoup de photos. C'est des photos du Diwa, hein, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis amoureux du Diwa, donc c'est des photos du Diwa. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ce livre, il est presque made in Diwa dans son intégralité. Alors moi, je n'ai pas le talent de dessinateur. Il a fallu que je trouve un dessinateur. Le livre, en fait, il y a une cinquantaine de pages qui sont des illustrations. Et le reste, ce sera un petit peu de texte et des photos. Et sur la partie dessin, donc, j'ai fait appel à quelqu'un qui avait ce talent, qui s'appelle Antoine Favre et qui habite à Jonchère. Je l'en remercie. Pour ce qui est de l'infographisme, c'est Sébastien Faria, un autre copain qui habite à Bellegarde. Et pour ce qui est de l'édition, c'est sur Establet. Voilà, c'est l'édition de Loul et du Jabron. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui a été fait dans la partie d'Iwa, hormis l'impression.
Est-ce que ce livre pourrait servir d'élan pour les gens, leur donner envie d'aller vers cette discipline, ou est-ce que toi tu l'as plus prévu comme étant un moyen de laisser poser sur papier ce que tu avais vécu un moment ?
Je pense les deux, en fait, parce qu'il y a des textes qui parlent un petit peu de ces moments magiques, de cette proximité avec l'environnement, qui pourraient donner effectivement envie à des gens qui ne sont pas pratiquants à l'heure actuelle. Et puis pour le reste, oui, c'est de laisser quelque chose. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'était au moins de le mettre sur papier, quoi. Mm-hmm. Mais c'est une aventure, hein, de se lancer...
Dans un livre.
Ouais.
Ouais, il paraît que ça fait partie des trucs très compliqués, planter un arbre, faire un...
Ouais, on accouche de quelque chose, exactement. Voilà, on accouche de quelque chose, quoi. Donc c'est un projet... personnel, mais aussi et surtout familial, hein, ça je tiens à le dire. Familial parce qu'à l'époque où je courais, j'étais pas très présent à la maison. Et puis aussi dans l'élaboration du livre, parce que c'est aussi à un moment donné, je dirais pas un sacrifice, mais c'est un budget, donc il faut financer tout ça. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai fait appel à une plateforme de crowdfunding pour pouvoir lancer l'impression, parce que ça a un coût. Donc au préalable, tout ce qui était dessin, graphisme, on l'a financé sur des fonds propres. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon là, il faut peut-être arrêter un petit peu. Et du coup, mais ça a permis de faire la promotion aussi du livre en amont. J'ai fait appel donc à une plateforme de crowdfunding pour lever des fonds, c'est-à-dire que j'ai prévendu en fait le livre sur 200 exemplaires. Et ça m'a permis de réunir les fonds nécessaires à lancer l'impression. En fait, les gens ont payé le livre par avance. Voilà.
Ça a marché.
Ça a marché et ça aussi, c'est une belle aventure. Après, il faut mettre en avant un petit peu de com' sur le livre. Voilà. Heureusement aussi, l'entourage proche est toujours là pour donner la main à la pâte.
Ouais, c'est souvent les premiers dans ce cas-là.
C'est clair.
Tu parles beaucoup d'environnement, de lien avec la nature. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que le trail est respectueux, en tout cas dans sa démarche ? Comment est-ce qu'on vit avec l'environnement quand on fait cette discipline ?
Il est respectueux à la base, hein, sur l'éthique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un sport de masse, donc ouais. Avec les dérives que ça peut avoir. C'est-à-dire que les gens sont plus forcément à l'écoute de l'environnement. Ils sont des consommateurs d'un espace. C'est ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, quoi, hein. Ça veut dire que ils écoutent plus vraiment ce qui se passe autour d'eux. Ils sont plus avec leur smartphone ou
calculateur de poux.
Ouais, voilà, les drones, etc. Donc effectivement, ils se rediffusent ça une fois chez eux, mais ce qui est important, c'est de vivre le moment présent, quoi. Alors bon, je caricature un petit peu, hein.
Non, mais on voit par exemple d'autres types de courses, hein, on ne va pas les citer, mais qui vont aussi par exemple laisser énormément de déchets après,
ouais,
leur passage.
Oui,
ou une manière, voilà. Tu parlais, ouais, de consommer un petit peu le lieu. Ils pourraient courir dans cette superbe montagne, voilà, ou au fond d'une
Bah là, pour moi, on n'est plus dans la pratique du trail, quoi, ouais, quand on, ouais, commence à faire ce genre de choses. Et c'est un petit peu effectivement... c'est les dérives, quoi, hein, c'est les dérives. Bon, il faut savoir aussi que, après, c'est dans le règlement d'une course, hein, dès lors qu'on jette un papier, on est passible de disqualification, quoi, hein, mais il n'empêche qu'il y a quand même des gens qui sont dans cette logique-là.
On a parlé de kilomètres vertical. Il me semble qu'il y en avait eu un dans le coin. Et puis, il y a eu un trail vers la Motte Chalancon, par là-bas.
Ouais, bah c'est bien. Ça me donne l'occasion.
Est-ce que tu participes à ce truc-là ?
Totalement, ça me donne l'occasion de parler. Alors, pour ce qui est du kilomètre vertical, il y avait effectivement à Chamlock le kilomètre vertical du but de l'Aiglette, qui malheureusement n'a plus lieu. Peut-être que ça n'est que partie remise. Organiser une course, c'est mobiliser beaucoup de bénévoles. C'est un investissement tous les jours aussi. Là, visiblement, ils étaient un petit peu en creux de la vague en termes de gens qui voulaient s'investir là-dedans. Donc, bon, c'est voilà, tout de suite, elle n'existe plus, mais le tracé est bien présent. Il y a bien les 1000 mètres de dénivelé, donc pourquoi pas un jour relancer cette course. Ensuite, tu parlais du trail de la Motte Chalancon, donc c'est l'ultra tour de la Motte Chalancon. C'est une course effectivement que je co-organise. Je me suis joint à l'organisation après l'avoir faite il y a 3 ans. Donc cette année, ce sera la 3e édition. C'est une très belle aventure aussi. On est un petit groupe d'organisateurs et l'idée, c'était de faire profiter un maximum de gens de ces parcours sublimes qu'on a pu mettre sur pied. Alors juste cette année, donc ça aura lieu, je fais un petit peu de promo, j'en profite, le 20 et 21 juillet. Donc c'est sur 2 jours, avec le samedi à 86 km. Et plus de 4000 mètres de dénivelé, donc là c'est vraiment pour un public averti qui s'est entraîné. Il y a un 40 km aussi qui est une distance nouvelle cette année. Et le dimanche, on aura les formats un petit peu plus courts avec un 21 km et un 13 km qui pourra se faire soit en courant, soit en randonnée pour le 13 km. Voilà.
Et là, on va sur les balcons qui font le tour, notamment de Cornillon et toute cette zone-là. C'est assez gazeux comme parcours.
C'est, en fait, on a la chance d'avoir beaucoup de lignes de crête dans le Diwa ou des sommets sur lesquels on a des circulaires de 360 degrés avec des vues imprenables, que ce soit sur le massif du Dévoluy, sur le Ventoux. Voilà, donc si par chance il fait beau, c'est toujours mieux quand il fait beau, c'est sublime.
Il faut s'inscrire maintenant, là, puisque comme ça on finit pour le...
Les inscriptions sont ouvertes, sur Internet, donc allez-y, n'hésitez pas.
Bon, et Thomas, sinon, alors, tu reprends un magasin ici.
Voilà, on a repris avec Floriane, ma femme, et puis les enfants qui sont derrière ce projet aussi. Le magasin, donc, anciennement Sportissime, mais qui aujourd'hui s'appelle Verisport, au 85 Avenue de la Résistance, donc...
Face à Inter.
Ça parlera peut-être plus en disant face à Intermarché.
Mais bon, oui, c'était le Twinner et le Sportissime avant. Bien sûr, ça a toujours été un magasin de sport. Alors ça, c'est une nouvelle aventure. Tu avais déjà fait du magasin, de la vente, je ne sais pas.
Alors de la vente, non. Ouais. Du magasin, non plus. Une expérience sportive, oui. Ce que je n'ai pas dit, c'est du temps où j'évoluais dans le Team Salomon. J'ai travaillé aussi pour eux en micro-entrepreneur, en fait. Pendant une période de 50 jours dans l'année. Donc, ce que je faisais, c'était de la formation en magasin sur les chaussures de trail. Et je faisais aussi de l'événementiel sur les différents événements Salomon qui avaient lieu à l'époque en France. Mmh. Voilà.
Donc, reprise de ce magasin, c'est quoi ? C'est un fonds de commerce, c'est reparti. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui va ? Présentation, allez.
Alors du coup, ce que je peux dire aussi, c'est que moi, j'étais paysan avant. Donc,
oui, c'est vrai.
Rien à voir. Voilà.
Tu passes de la boue à la...
Je passe de la boue à la moquette du magasin.
Moquette,
donc, j'ai fait ça avec passion aussi. Hein, pendant plus de 20 ans. Mais j'arrivais à un moment où j'avais envie de changer, peut-être un petit peu la crise de la quarantaine, on se dit qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire. Ce qui était certain dans ma tête, c'est que je voulais arrêter le volet agricole, mais je ne savais pas trop quoi faire avec toujours quand même cette expérience, enfin cet amour aussi pour le sport qui était en moi. Et on a su effectivement que le magasin était vacant. Et Floriane, donc mon épouse, qui elle a vraiment un esprit entrepreneurial, m'a dit « mais fonce, vas-y, c'est pour toi ». Et du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans. C'est allé assez vite puisque l'idée nous a pris au mois de juin-juillet de l'année dernière. Et on a ouvert le magasin, réouvert, au mois de le 15 novembre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui change par rapport à avant ?
On a gardé les grandes lignes, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une région un petit peu de moyenne montagne. Donc, vraiment, le point fort du magasin, ce sont les sports outdoor avec le volet randonnée, le volet montagne aussi, avec de la technicité sur des produits, avec des marques comme Millet, North Face, qui historiquement ont toujours été dans le magasin. L'idée a été aussi, à un moment donné, c'est d'ouvrir le magasin à des plus largement, parce que le technique, c'est beau, mais c'est coûteux aussi. Donc c'était de faire de rentrer des marques qui étaient un petit peu moins onéreuses, tout en étant techniques. Voilà, et puis d'apporter une offre qui avait été présente précédemment, mais arrêtée sur les dernières années, une offre sur sportswear, donc plus pour s'habiller dans la vie de tous les jours. Donc on a rentré une marque comme Only, par exemple, chez les dames, ou Oxbow chez les hommes, qui sont moins vraiment sur un volet purement sportif, mais pour s'habiller, donc pour des idées cadeaux, s'habiller tous les jours, voilà.
Et puis alors, sur la partie outdoor, bon, il y a toute cette escalade, tout ce qui est canyon, tout ce qui est randonnée, tu le disais. Il y avait un volet ski aussi, je voulais qu'on on en a parlé hors antenne. Ouais. Ah oui, parce que ça, vous l'arrêtez quand même.
Oui, voilà, il y avait un volet ski. C'est un choix délibéré de notre part, ça a été de ne pas le reprendre parce qu'on a racheté un fonds de commerce, on est reparti sur du stock zéro. Ça représente quand même des gros investissements financiers. On s'est posé la question de savoir si on reprenait ou pas la partie ski, sachant que les anciens propriétaires, Yannick et Nadia, partaient avec tout le matériel, les machines d'entretien sur un projet en Savoie. Donc il fallait repartir à zéro sur tout cet aspect-là, dans la mesure où l'enneigement, bon, alors c'est vrai que là on est sur une année
exceptionnelle,
n'était pas très bon les trois dernières années, donc voilà, on peut pas tout faire. À un moment donné, on peut pas tout faire. D'autres le font à notre place et c'est très bien comme ça.
Ouais, mais comme ça, c'est dit hein, que les gens n'aillent pas. Il doit y avoir des gens qui arrivent quand même.
On a vu pas mal de gens. Ouais. Alors là, c'est vrai que ça commence à être intégré, mais surtout les vacanciers, parce que les vacanciers sont là une semaine, ils ont leurs petites habitudes, donc ils débarquent le matin et que avec toute la famille, et ils rentrent dans le magasin, ils disent là, on a dû se tromper, c'est pas possible.
Il y avait un volet vélo aussi.
Oui, il y avait un volet vélo qui avait été arrêté, qu'on n'a pas repris. On a un petit rayon consommable vélo de la marque BBB pour dépanner. On ne fait pas de mécanique de vélo. C'est pareil, sur dit, d'autres personnes le font. Donc,
plutôt dans la niche de ce qui n'est pas fait, justement, ici, ou moins par les autres magasins, quoi.
Ouais, exactement. Voilà, après, l'idée c'est aussi c'est de travailler, ça j'en ai pas parlé, mais avec il y a énormément d'associations sportives dans le Diois. Donc on a dans la mesure du possible des articles hein, sur de tennis par exemple et d'autres sports. C'est de mettre en place un petit peu un partenariat avec les associations sportives et les licenciés. Donc on a envoyé récemment un courrier à toutes ces associations sportives en proposant une remise de 10% donc pour tous les licenciés sur présentation de licence au magasin. Et puis aussi de fonctionner sur des commandes de pré-saison, c'est-à-dire que les clubs sportifs peuvent venir nous voir et nous dire on aurait besoin de c'est un exemple hein, ou une quinzaine de paires de chaussures de foot, une vingtaine de nous on a les catalogues donc on peut commander aussi et dépanner les gens. On est vraiment sur un commerce de proximité, on est là pour écouter, conseiller les gens. Si les choses qu'on n'a pas en magasin, on a des catalogues parce qu'on a des fournisseurs de très bonnes marques. Il y a toujours moyen de prendre un catalogue, de regarder et de voir ce qu'on peut faire dans la mesure du possible.
Voilà, l'idée, c'est d'aligner des références si elles sont utiles plutôt que d'avoir des espaces de magasins pour des choses qui se vendent que peu, finalement.
Oui, exactement, ouais. C'est ça.
Ouais. Et sur les déplacements, puisque tu avais un autre travail avant, est-ce que tu toi-même étais consommateur pour ta pratique sportive des commerces du Diois.
Ouais.
et quid de ces déplacements assez importants, hein, notamment sur, on va les citer, hein, sur des décathlons et autres dans les grandes villes.
Surtout pas, mais à bannir.
Ouais, à bannir. Mais du coup, il y a un vrai problème avec ça et quand même les autres magasins en parlent aussi.
Ça, Internet aussi. Internet. En fait, c'est vraiment un challenge hein, d'ouvrir de reprendre un commerce aujourd'hui, hein, parce que il y a une concurrence assez raide au niveau d'Internet. Pour ce qui est du quid dont tu me parlais, en fait, je suis consommateur et je l'ai été, je ne devrais jamais dire ça, mais d'autres magasins, d'autres enseignes comme Decathlon, je conçois que quand on a trois enfants et que ces enfants-là changent de trois fois de pointure dans l'année, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on qu'on met pas trop l'accent sur les vêtements enfants au magasin aussi. Hein. Mmh. Voilà, après, Internet existe, les autres anciennes existent, ça fait partie du jeu. À nous démarquer, à proposer autre chose. Ça veut dire peut-être un sourire quand les gens rentrent, ça veut dire les écouter, ça veut dire les conseiller, voilà, au sein de notre magasin. Mmh.
C'est ce que je voulais entendre. Et alors, en termes de conseils, qu'est-ce qu'on a avec vous ?
En termes de conseils, je pense quand même avoir une légitimité sur le conseil sportif pour bien connaître les chaussures de trail en évidemment. L'occurrence. Mais c'est vrai que j'étais au collège en sport nature à la Chapelle en Vercors et j'ai pris goût très tôt à une multitude de sports. Donc j'ai pratiqué l'escalade aussi, j'ai pratiqué le tennis, je pratique le vélo, enfin beaucoup de sports. Donc je connais le côté sportif, les produits je les connais aussi, donc après... voilà, j'ai une certaine légitimité par rapport à conseiller les gens sur aller vers tel produit ou tel produit.
Est-ce qu'on peut aussi aller au magasin pour avoir des orientations de promenade, de lieux incontournables dans le secteur ou
ouais,
pour faire des bonnes courses?
Pour avoir bien gambadé dans le Diwa, ouais. je connais. Alors après, je me fais toujours engueuler parce que quand je conseille les gens, c'est vrai que moi, je pars un petit peu sur mes bases de coureur. Et quand je dis que je mets 1h20 pour monter sur le dôme depuis l'abbaye, les gens, ils me regardent avec une grosse interrogation dans leur regard. Donc, je me reprends. Et puis, mais il n'y a pas de souci. Oui, je connais très bien le Diwa.
On peut trouver ton livre dans ce magasin et peut-être d'autres, des topos aussi.
On peut trouver le livre. Pour ce qui est du livre, on le trouve effectivement dans le magasin. On le trouve aussi à notre petite librairie Mosaïque. Sur Die. J'ai été pris dans la spirale de l'ouverture du magasin et j'ai mis un peu de côté ce qui est la communication sur mon livre. C'est quelque chose que je vais peut-être être amené à faire. Enfin, que je vais être amené à faire parce que pour tout vous dire, on m'a fait un tirage à 1000 exemplaires et j'en ai vendu 300. Pour rentrer dans mes frais, il faut que j'en vende 600, donc j'en aurai 300 encore à vendre. Après, il y a quelque chose d'incontournable. On parlait du commerce de proximité, qui est un petit peu à l'encontre de tout ça, mais ça reste Amazon quand même. Ça permet quand même de toucher un large public, quoi. Voilà.
Donc il est dessus.
Pas encore. Je résiste pour l'instant. Non, mais après, il ne faut pas se priver aussi de nouvelles technologies. Enfin, pas technologie, mais la communication, elle se passe autre part aujourd'hui aussi. Hein.
Et puisqu'on parle d'Internet, alors vous avez le magasin à son site
Pas encore. Pas encore. On n'a pas. On est présent sur Facebook parce que c'est assez facile.
Ouais.
C'est gratuit aussi, il faut le dire.
Presque essentiel.
Ça peut devenir payant si on a envie de booster un petit peu les publications, tout ça. Ouais. Mais après, on ne touche pas tout le monde. Donc l'idée, c'est qu'on a aussi un support dans le Diwa qui est le petit Diwa. Donc c'est de diffuser un petit peu via le petit Diwa aussi, de faire des plaquettes à distribuer dans les campings, on a mis un totem sur l'avenue de la Clairette pour montrer qu'on était là, c'est plein de choses à mettre en place qu'on est en train de faire.
Ouais, c'est le début de cette histoire, quoi.
Et oui.
Ça va, tu vous tenez?
Oui, on tient le coup. C'est un lot de stress, parce que beaucoup d'interrogations, parce que on a aussi on a des partenaires comme l'IVDD qui nous ont soutenus sur un prêt au zéro. Et puis quand on est compétiteur, on n'aime pas perdre. Donc, on se donne des objectifs. C'est vrai que là, par exemple, on a un petit carnet de route avec un prévisionnel et qu'on aime que ça colle à la réalité, quoi. Donc, on ne lâche rien et puis on va se donner les moyens pour que ça fonctionne.
Ça fonctionne pour l'instant ?
Ça fonctionne pour l'instant. Alors là, on n'est pas dans la meilleure période parce que le mois de mars reste quand même le mois le plus creux de l'année. Mais avec tous les gens qui nous écoutent et qui vont accourir au magasin, je pense que là, on va tout exploser.
Avec Thomas Vérissel, on parle de Vérisport, du petit recueil du trailer. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ?
Écoute, je pense pas. Hein. Après, si on a oublié quelque chose, enfin, si les gens ont besoin d'être éclairés sur certaines choses, Vérisport, il y a un numéro de téléphone.
Ouais. Donne-le.
Que je n'ai pas en tête. Alors là, c'est la boulette.
Bon, on va le noter sur le site internet.
Vous pouvez le trouver
horaires d'ouverture.
Sur le site. Ouais, les horaires d'ouverture. Donc ici, on est obligé de se baser sur une saison estivale et une saison hivernale. Mm-hmm. Donc l'été, on sera ouvert le lundi, chose qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on est ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les horaires sont les suivants, donc 9h30 le matin jusqu'à 12h30. Et ensuite, on rattaque l'après-midi, 14h30, 19h.
Et le lundi en plus pour l'été.
Et le lundi en plus pour l'été, voilà. Avec des amplitudes d'horaires qui seront certainement un peu plus élevées aussi.
Thomas, merci.
Merci bien, Baptiste.
À une prochaine.
Ouais, merci à N'hésitez vous,
pas.
Merci à Radio Diwa. Et puis, longue vie à Radio Diwa aussi.
Cool.
Merci.
Hey, the bird.
L'interview du jour.